RMC, cours numéro 1.
Salut à tous, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien pendant Roland-Garros. C'est cours numéro 1, votre podcast tennis sur RMC, à télécharger sur toutes les plateformes. Et nous sommes là pour débriefer cette troisième journée de Roland-Garros. Ce mardi, nous sommes dans un cours central Philippe Châtrier vide, en compagnie de notre double mix qui a fait son entrée en lice depuis déjà quelques jours. Sarah Pitkowski, salut Sarah.
Bonsoir à tous.
Et Eric Salio, salut Eric.
Salut à tous, j'ai l'impression que Sarah elle est allée voir des matchs parce qu'elle a pris le soleil. Hein.
Ah ouais? Non mais tu sais qu'il nous a présenté double mix, mais nous on est sûr d'être en finale. Hein. Ça fait des années que ça dure Eric. Nous on est là, en deuxième semaine, on est là samedi et dimanche.
On peut signer votre très belle complémentarité, c'est ce qui vous caractérise.
Je sais pas, j'ai l'impression que ce soir on va pas être d'accord.
Ah, allez, le programme en attaque avec Moïse Kouamé qui a fendu Marin Cilic 7-6, 6-2, 6-1. Que de records de précocité. Ça faisait depuis 2009 qu'un joueur aussi jeune n'avait pas gagné un match du Grand Chelem. C'était Tomic à l'Open d'Australie. Roland Garros, faut remonter en 91. Et pour un Français, c'est Thierry Tulane. Début des années 80, il avait 16 ans. Bref, Moïse Kouamé, comme on l'a interrogé, on lui parle pas d'âge, Sarah. Il fait pas ses 17 ans. Il a pas fait ses 17 ans aujourd'hui.
Non, franchement, je vais laisser Eric donner plus de chiffres sur le match. Mais moi, je vais vous donner juste l'impression. C'est cette sérénité, cette maîtrise. Parce que rentrer sur un court central, même si ce n'était que le Simone Mathieu, la pression du public, vouloir bien faire, tout ça, c'est pas anodin pour un joueur et une joueuse qui joue son premier Roland-Garros. Et il a été d'une maîtrise et d'un sang-froid. Oui, voilà, je pense que ça, c'est le sang-froid, parce qu'il a eu quand même pas mal de balles de break à sauver dans la première manche. Et il a tenu. Il a tenu au point de faire craquer Marin Cilic. Et puis avec quelques coups de génie, en tout cas, vraiment, moi, c'est un grand coup de cœur et je trouve qu'il donne vraiment du baume au cœur à ce tournoi. Et puis, bien, la direction du tournoi a bien senti qu'il fallait lui donner une wildcard dans le tableau.
Des balles de break sauvées et même deux balles de set sauvées dans la première manche, Eric.
C'est ce qui a fait la différence, hein. Je pense que même si Cilic est un grand joueur, mais il a pris un petit coup au moral parce qu'il s'est rendu compte, je pense, que le move en face, il avait du répondant. Et la manière dont ensuite il a géré le tie-break, ça a fini d'achever Marin Cilic. En plus, il y avait une ambiance extraordinaire. C'était le premier match sur le court Simone Mathieu. On sait que c'est un court où les gens qui ont des tickets sur les annexes peuvent venir gratuitement, si je puis dire, à condition d'être sur le balcon supérieur. C'était plein. Et à la fin, il y avait, il fait quoi ? Il fait 5000, donc c'était absolument génial. Et j'ai bien aimé sa joie, son hésitation au moment de répondre aux questions de Marie Patrux. On a l'impression qu'il était au bord des larmes, mais finalement non. Et en conf de presse, il nous a régalé parce que, alors, je vais tenter un truc. Moi, j'étais là-haut parce que j'étais dans le Moscato Show. Et bon, je le connais l'oiseau parce que je l'avais interrogé à Lille, au Challenger de Lille, et j'étais évidemment à Monte Carlo aussi. Et le môme, il a du répondant parce qu'on ne lui parle pas d'âge. Donc là, c'est tout de suite Mbappé. Je trouve qu'il y a du Mbappé en lui. Ensuite, quand on lui pose une question, il prend le temps de répondre. Et là, pour moi, c'est Wembanyama. Et
trois, comment tu dis ?
Wemby.
Oui. Wembanyama. Wembanyama, oui, je crois que tu as un peu mangé. Hein.
Oui, tu as mangé la feuille.
J'ai mangé la feuille avec ma Marino. Donc,
oui, on a compris ce que tu voulais dire.
Et troisième chose qui m'a marqué en conf de presse, donc il prend son temps et il réajuste sa casquette et là, c'est Roger Federer. Donc avec ce cocktail, qu'on va gagner quelque chose de grand dans les années à venir.
Alors écoute, avant la réaction de Sarah, on va écouter justement Moïse Kouamé en conférence de presse tout à l'heure.
Je me sentais assez bien, je me sentais vraiment préparé, je me sentais prêt. On a beaucoup travaillé sur la tactique de comment aborder ce match avec l'équipe. Je me suis entraîné beaucoup d'heures sur ces terrains, donc je savais aussi à quoi m'attendre en termes de surface. Et puis l'année dernière, j'ai pu jouer ici, donc je savais aussi un peu à quoi m'attendre en termes d'atmosphère sur le terrain avec tout ce public présent aujourd'hui. Toute cette expérience récoltée à Miami, Monte Carlo, m'a vraiment sûrement aidé. À Montpellier aussi. Si la victoire n'avait pas été là aujourd'hui, je me serais amusé au moins. Et je pense que d'une manière, c'est ça le plus important au final. Oh, bien sûr. Au final, j'ai 17 ans et j'ai gagné un match en Grand Chelem. Finalement, je ne pense pas que l'adversaire aujourd'hui, en me jouant, il se disait il a 17 ans. Non, il essayait de faire le coup pour m'aider le plus possible. Et c'est pareil pour moi. quand je jouais, je me disais pas, je m'en foutais un peu de son âge, je voulais juste lui donner la balle la plus compliquée à remettre. Là, pour ma part, j'essaye d'être le plus focus possible.
On s'arrête toujours autant dépité de quoi, la casquette, le petit coup de casquette de Roger.
Oui, non, mais là, Eric, il nous raconte un storytelling, là. Si tu veux nous faire pleurer dans les chaumières, je pense qu'il est avant tout un excellent joueur de tennis, un tennis complet. Son jeu de défense, sa couverture du terrain, vraiment, elle est impressionnante. Et puis, il a réussi petit à petit à jouer avec le public. En tout cas, il a tous les ingrédients pour faire un grand, donc affaire à suivre. Mais vraiment une très, très belle entrée en matière et beaucoup de satisfaction pour le tennis masculin français avec Moïse Kouamé dans les écuries maintenant. Un très beau match.
Je voulais juste vous entendre sur un truc, puisqu'on parle un peu de Moïse. Moi, j'ai trouvé l'autorité qu'il dégageait sur ses jeux de service. Moi, c'est ça qui m'a un peu plus marqué.
Ouais, non, mais il sert en première, ça va, ça dépasse les 220 parfois. Sa deuxième balle est extrêmement kickée. Il est déjà très grand. C'est un athlète à 17 ans. Moi, je l'avais vu à Lille en vrai et j'avais été bluffé. Mais c'est un garçon qui va nous amener plein de bonheur, c'est évident. Maintenant, il ne faut pas s'emballer, on voit que son entourage le protège énormément, puisqu'il y a, on va dire les choses, il y a interdiction de s'adresser à son staff, à Richard Gasquet, à sa famille. Ça nous rappelle un peu Loïs Boisson l'an passé. Bon, bah, s'il fait une demi, on ne va pas s'en plaindre, mais c'est vrai que pour travailler, ce n'est pas simple. On sent qu'il y a vraiment un désir de le protéger. D'ailleurs, il a mis beaucoup de temps avant de venir en conférence de presse, donc ils ont dû le briefer, mais le gamin, il n'a pas besoin de ça, quoi. Il est déjà très mature et c'est une pépite, quoi. C'est une pépite, et maintenant on a hâte de voir ce qu'il va donner au prochain tour, parce que là il va peut-être changer de cours, hein. Ils vont peut-être le mettre sur Suzanne Lenglen, ça va monter en puissance.
Il jouera contre Baiero, un Paraguayen qui a tapé la balle avec Moïse Kouamé à l'entraînement vendredi. C'est le Paraguayen qui nous a dit ça. Depuis Ramon Delgado, c'est le premier Paraguayen. Ça doit être 2003, c'est ça ?
Il y a un truc qui me frappe, vous allez dire encore que je fais du storytelling. Il y a quelques heures, on a perdu Gaël Monfils. J'ai l'impression qu'on en a retrouvé un autre. Parce qu'il y a quand même des ressemblances dans le jeu. Ça crève les yeux, Sarah.
Oui, non, absolument. Oui, non, c'est il a, ce que je disais, tous les ingrédients pour être un excellent joueur de tennis. Et puis, il va se bonifier. En tout cas, son caractère va s'affirmer petit à petit. Et on va le voir grandir sous les yeux des caméras. Voir comment, déjà lui, physiquement, il va forcément évoluer. Son tennis, il va s'enrichir. Et on va voir vraiment ce caractère. Si est-ce qu'il est vraiment très showman ou est-ce qu'il est plutôt...
homme de glace un peu, des fois, il a le...
Oui, c'est vrai qu'il a aussi ce visage qui peut se fermer. Est-ce qu'il sera plutôt de Joe Wilfried Tsonga, qui mettait quand même une certaine distance. Donc voilà, on va le voir grandir et on va le voir s'affirmer dans les prochains mois, prochaines années, sous les yeux des caméras et sur les grands tournois.
Et là, sur cette quinzaine, il peut aller jusqu'où ? Marin Cilic, il y avait 20 ans d'écart, hein, 37 ans pour Marin Cilic, mais quand même, ancien vainqueur de l'US Open, c'était... pas n'importe qui, et on a vu dans ce premier set, même si voilà derrière 6-2, 6-1, ça a plus déroulé pour Moïse, mais quand on regarde le tableau, parce que je vois que tu as les yeux dessus, Eric, jusqu'où il peut aller, Moïse ?
Bah écoute, quand on attendait l'identité de son adversaire, on se disait qu'un mec comme Nori pouvait être un adversaire redoutable, mais il se trouve que Nori a abandonné contre ce Paraguayen, donc franchement, je n'ai jamais vu jouer Valero. On a regardé son activité, je crois qu'il fait finale à Challenger à Valence, donc on sent qu'il joue bien sur terre, c'est évident. Donc là, ça va avec une bagarre physique, parce que bon, on va pas, on va dire les choses. Les deux derniers sets, Marin n'y était plus. Il faisait vraiment son âge, et donc il s'est fait cueillir au menton sans nombre d'un doute. Là, ça peut être une baston qui va être beaucoup plus longue, il faudra montrer du physique. Et on ne sait pas encore ce qu'il a totalement dans le moteur, Moïse, donc... il faudra récupérer aussi.
Oui, non, d'accord. Mais on est obligé de considérer que c'est un bon tour pour aller au troisième tour de Roland-Garros. C'est sûr que c'est toujours mieux de jouer un Paraguayen peu connu que Cameron Norrie. Donc non, c'est un bon tour.
Donc vous y croyez ?
Non, mais ouais, moi je veux bien. Mais tu sais, il y avait un Espagnol qui n'était pas très connu il y a encore deux mois. Il s'appelle Rodar.
Oui.
C'était un bon tour à l'époque, hein, quand tu jouais Rodar. C'est plus du tout un bon tour. Non, mais...
Oui.
Je ne pense pas que Valero ait le même talent que Rodar. Mais je pense que là, on va avoir un match de terrien, mais il sera prêt au combat, c'est sûr, avec Richard Gasquet. Il a la chance d'avoir Richard Gasquet dans son box, parce qu'on parlait des stats. Richard Gasquet, lui, son premier Roland, il avait perdu contre Costa. Bon, il avait pris le premier set, mais il n'avait pas pu inscrire son nom dans les livres d'histoire. Là, si Moïse il veut chambrer Ricci, à 17 ans, ouais, ça y est,
je pense que ce n'est pas du tout le style à chambrer Ricci, hein, comme tu dis.
Justement, ça sera un sujet intéressant, on pourra épiloguer, mais de voir Richard être dans le staff, cornaqué Moïse Kouame, on se dit vraiment c'est celui qui sait le mieux de ne pas faire ses erreurs quand on a 16 ou 17 ans, le mieux guidé finalement. Hein.
Bah, c'est ce que je recherche aujourd'hui j'ai envie de dire les joueurs, mais là, en l'occurrence, c'est même plus les joueurs, c'est l'entourage, puisque c'est encore aujourd'hui, c'est l'entourage et la famille de Moïse Kouame qui dirige un peu les choses. Et de s'adjoindre les services d'un ancien joueur, c'est aussi de pouvoir gagner du temps dans l'appréhension des différentes étapes, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, ou au contraire, des choses qu'il faut faire. Et c'est ça l'intérêt de la transmission d'un ancien joueur qui a arrêté très récemment, c'est d'être dans la transmission et même l'écoute du joueur, elle est forcément plus attentive parce qu'on est sur un partage d'expérience. Tiens, Richard peut dire, moi quand j'étais sur le court ou que j'ai joué tel joueur ou que j'étais à tel moment du match, quand il lui donne des conseils, c'est du vécu. Donc forcément, c'est des choses qui peuvent faire gagner du temps. Et donc c'est un atout pour Moïse Kouame d'avoir Richard à ses côtés.
Bon, parlons des choses qui fâchent ou qui nous déçoivent. Louise Boisson était très attendue, la demi-finaliste de l'an passé, et elle s'est inclinée en 1h19 face à Kalinskaya, tête de série numéro 22, 6-2. 6-2. Qu'est-ce qu'on a envie de dire, Sarah ? On s'en doutait, on savait qu'il n'y aurait pas de miracle. Il y a une forme de fatalité aussi, hein, compte tenu de l'état de forme de Louise Boisson qui n'a joué que 5 matchs en 2026.
C'est juste une forme de normalité. Je le répète souvent, le tennis, ce n'est pas un hasard. Donc, il lui manque des heures et des heures d'entraînement. Il lui manque des heures de match. Même au-delà de ça, elle n'a pas assez de vécu pour se dire « Ok, je n'ai pas pu jouer tant que je pouvais ou tant que je voulais, mais même, elle a même pas de vécu des années précédentes de jouer un grand circuit, de jouer des joueuses à un certain niveau sans avoir confiance en soi. Tout ça, en fait, elle est vierge de toute expérience. Donc, il y a un moment, c'est de l'ordre de l'infaisable ce qu'on lui demande. Et puis, en plus de ça, on l'a vu. Après, ce qu'on attendait, c'est ce que je disais dans le Moscato Show cet après-midi, je connaissais pas son niveau de jeu. Et là, on l'a vu, son niveau de jeu. Elle manque de repères. Elle trouve pas ses marques. Elle glisse pas aussi bien. On la sent aussi un peu plus empruntée pour tourner autour de son revers. Donc, en fait, elle se fait prendre sur son revers. L'année dernière, elle tournait à une vitesse incroyable autour de son revers. Elle faisait le jeu avec son coup droit. Son service, il y a peu de premières balles. Tout ça fait qu'elle est exposée. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est une déception. Mais c'est normal. C'est normal, on ne peut pas demander à Loïse Boisson de faire un exploit compte tenu de son historique et de son vécu à ce niveau-là de tournoi du Grand Chelem. Je pense qu'il faut, c'est toute raison gardée, même s'il y a une énorme déception, elle est encore en énorme phase d'apprentissage.
Juste avant d'entendre Eric, on écoute Loïse Boisson, justement, c'était en conférence de presse, beaucoup de déceptions. Elle avait même les yeux rouges, avec beaucoup d'émotions embuées, il n'y a pas eu de larmes, mais c'était pas loin.
Bah forcément, je m'attendais, enfin, non, c'est pas que je m'attendais pas, mais quand on perd au premier tour, on n'est pas content, ouais. Pas forcément, pour moi, à Strasbourg, c'était mieux, mais c'était pas encore ça. Voilà, après c'est sûrement juste aussi des adversaires que je préfère le style de jeu et j'arrive un peu mieux à jouer, d'autres non. Bah non, écoute, non, ça allait, je suis entrée sur le court avec pas un stress qui m'empêchait de jouer, en tout cas c'est pas ce genre de stress. J'avais juste pas de bonnes sensations tennistiques, mais non, j'ai pas eu un stress qui m'empêchait de jouer, non. Bah, il arrive pas trop tôt, il a la même date tous les ans et c'est juste que moi j'étais pas prête. Je pense, enfin, je suis pas. J'aurais pu être beaucoup mieux si c'était pas passé tout ça, quoi.
Eric, on a quand même vite compris que ça serait compliqué pour Loïse Boisson très rapidement dans ce match sur l'Anglaine.
Oui, c'est là où c'est un peu décevant, c'est que bon, Kalinskaya, d'abord crédit à elle, parce qu'elle avait bien bossé le dossier. Comme Sarah l'a dit, elle avait repéré les points faibles. Mais je ne l'ai jamais trouvée à l'aise, Loïse, même dans son déplacement. À un moment, elle se plaignait vis-à-vis de son staff et disait « j'arrive pas à jouer » parce qu'elle semblait glisser, là, presque un problème de crampon, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est tous ces petits détails qui l'ont parasité le cerveau. Évidemment, le stade était derrière elle, mais ça ne suffit pas quand t'as aussi peu de matchs derrière toi. Donc la punition, entre guillemets, elle est là, elle va se traduire au futur classement WTA. Mais j'ai envie de dire, quelque part, ce soir, peut-être qu'elle est soulagée. Parce que c'est dur à vivre ces moments où tu as les questions du journaliste, bon, tu as beaucoup de points à défendre. Bon, voilà, c'est fini maintenant, elle va repartir de zéro. Allez, on va dire ça, elle va être 150e mondiale le 8 juin. Il va falloir être vigilant dans la programmation, savoir ce qu'elle va faire cet été après le gazon. Et puis on en parlera, elle va pouvoir choisir ses tournois parce qu'elle a été intelligente dans son malheur, puisque pendant 6 mois, elle n'a pas pu jouer. Donc, elle va pouvoir bénéficier d'un classement protégé. Alors, c'est quoi un classement protégé? Ça veut dire que tu vas pouvoir t'inscrire où tu veux. Donc, elle va pouvoir jouer les WTA 1000, elle va pouvoir jouer l'US Open, elle va pouvoir jouer les tournées asiatiques. Maintenant, tu rentres dans les tableaux. Après, les matchs, il faudra les gagner. Et c'est là qu'on va voir elle va surmonter ce premier semestre totalement raté à cause des blessures, parce qu'elle a été accablée par les blessures. Et je ne sais même pas si elle joue sans douleur. C'est ça qui me gêne. C'est qu'il faut qu'elle retrouve le plaisir de jouer et d'être à 100% physiquement. Sinon, ça va être un désastre cette saison.
Alors, le plaisir de jouer, elle nous l'a dit, ce qui l'a fait tenir, c'est l'amour du tennis. Au moins, il y a déjà ça. On sent que c'est une fille qui aime toujours aller s'entraîner. Et on sait que c'est quand même la première des choses. Aller aimer taper des balles quand même, Sarah. Mais c'est un retour en arrière. C'est quoi? C'est un retour à zéro? On a avec quelques petites certitudes ou pas? On ne sait pas trop. Même pour nous, commentateurs, analystes, on ne sait pas trop quoi penser ni savoir sur quoi se projeter.
Je pense que ce n'est pas un retour en arrière, parce que ce qu'elle a acquis, ce qu'elle a gagné, personne ne lui enlèvera. C'est un retour à zéro. Non, c'est pas vraiment. En revanche, je pense qu'elle va, avec ce classement, elle va jouer à un niveau qui est plus proche d'être le sien aujourd'hui. Voilà. Et puis, elle sera moins exposée, parce qu'elle va jouer peut-être après. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est comment elle va gérer son calendrier. Parce qu'en fait, il faut aussi savoir que d'être capable de tenir un niveau de jeu ou un classement, il faut choisir tes tournois et faire ta programmation de manière intelligente. Et c'est là où, effectivement, elle a des tournois protégés, mais elle n'est pas obligée de les utiliser tout de suite, ces tournois protégés. Donc, est-ce qu'il ne faut mieux pas redescendre d'un niveau pour aller jouer des filles bien moins bien classées? Parce que, en fait, la confiance, elle se gagne en gagnant des matchs. C'est pas, et encore une fois, au tennis, tu perds une fois par semaine. Donc, si elle va aller jouer, elle va utiliser son classement protégé, elle va peut-être gagner un match de temps en temps. Mais pour refaire un socle de confiance et son socle de tennis, il faut qu'elle en gagne beaucoup des matchs. Et pour ça, pour moi, il faut jouer en dessous de son niveau pour aller les gagner.
Donc, le message de Sarah, si vous êtes 15-4, allez jouer une quatrième série, un petit 40 pour se remettre en confiance.
J'entends le discours de Sarah, mais Sarah connaît le milieu. C'est totalement impossible. C'est devenu un produit aussi. Tu as vu les sponsors qu'elle a sur sa chemise? Tu crois que les... Non, mais Sarah...
On peut... Non.
Tu ne joues pas à Wimbledon, peut-être, là. Exactement. Tu en es là.
Oui, moi, pour moi, il n'y a aucune raison d'aller jouer Wimbledon, compte tenu de son état de forme et du manque de matchs. Elle va aller jouer une surface qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne peut pas appréhender. Et c'est, en fait, c'est perdre quoi? C'est de perdre 3 semaines. C'est de perdre 3 semaines alors qu'elle pourrait continuer à travailler sur terre battue, aller jouer vraiment des petits tournois sur terre battue et d'aller regagner des matchs. Il n'y a rien de mieux que de serrer la main de ton adversaire en ayant gagné. Il y a un moment, c'est quoi l'intérêt? Et encore une fois, tu ne joues pas pour tes sponsors. Hey, oh, c'est signé, basta. Et il n'est pas dit qu'elle doit jouer les tournois, ce n'est pas eux qui dictent les tournois qu'elle doit jouer. Elle ne joue pas pour ses sponsors. Ils sont venus chercher une image, ils sont venus chercher des valeurs chez Loïse Boisson. Ils sont venus chercher, tu sais quoi, le mot résilience. Et bien la résilience, c'est d'être capable de redescendre pour pouvoir remonter.
Le mot résilience qui est tatoué sur l'arrière de son bras, alors qu'on est en train de perdre Sarah. Ouais, oui, c'est les conditions du direct. Elle va bien, vous inquiétez pas. Elle va aller boire un petit verre d'eau. En attendant, on a déjà une première piste. Parce qu'Éric l'énerve, voilà, Eric, c'est ça.
Éric, il est...
Non, mais Éric m'énerve.
Alors, Eric, non, Éric...
Éric, il s'y connaît un peu aussi.
Non.
Non, mais Sarah, bon, j'adore ton programme idéal. Elle est inscrite à Zertogenbosch. Elle est inscrite à Nottingham, elle est inscrite à Wimbledon. Donc, elle est obligée de jouer ces tournois.
Non.
Ben si. Elle ne va pas pouvoir faire d'autres tournois. À partir du moment où tu es inscrite dans un tournoi, tu ne peux pas aller jouer ailleurs, Sarah. Tu connais très bien le règlement. Donc, elle a peut-être fait une bêtise.
Ouais.
Mais moi, je pense qu'elle a très envie de fouler les grilles du stade de Wimbledon parce que c'est le temple du tennis. L'an passé, elle n'a pas pu y aller parce que les Anglais lui ont pas filé d'invite. Elle est allée faire les qualifs à Roehampton. Là, elle va kiffer d'aller fouler le merveilleux gazon londonien. Alors peut-être qu'elle ne gagnera pas de match. Eh bien, tant pis. Et ensuite, on verra s'il ira défendre son titre à Hambourg. Mais je trouve que c'est une bêtise de zapper la saison sur gazon. Donc, elle va aller jouer sur l'herbe. Mais peut-être qu'elle fera zéro. Mais je m'en fiche. Et puis voilà, c'est comme ça.
On peut programmer déjà le podcast de la deuxième semaine de, Roland, de Wimbledon ou pas? On se donne rendez-vous sur ce podcast-là.
Je viens de te dire qu'elle fera peut-être zéro,
oui.
Et je m'en fiche.
Ben, on refait un podcast uniquement sur Loïse Boisson. On prend rendez-vous la deuxième semaine de Wimbledon et on analyse tout ça, ok?
Avec plaisir, je serai sur place.
Très bien.
Vous serez sur place aussi? Non, bah non, l'été, c'est l'été. Hein. Vous serez sur place?
Non, je ne serai pas sur place, mais je n'ai pas besoin d'être sur place pour pouvoir analyser en toute connaissance de cause une bonne programmation.
Et puis pour rappeler à Eric que l'ancienne pro, c'est elle.
Exactement.
Évidemment. C'est passé.
J'ai l'impression que l'ancienne pro, elle ne sait pas que quand tu es inscrite quelque part, tu ne peux pas te désinscrire.
On va parler du bilan du premier tour pour nos Françaises et Français.
Sarah, ça, c'est pour Sarah, ça. Elle est bien là.
Bilan des Françaises et des Françaises.
Il y a deux victoires.
Oui.
Deux victoires. Aujourd'hui, Elsa Jacquemot qui s'est imposée. Et puis Diane Paris aussi. Il y aura donc deux filles au deuxième tour sur les neuf engagées.
C'est un joli score. Hein,
tu applaudis, c'est la pire performance. Alors que ça soit 1 ou 0, ça restait la pire performance depuis 1981. Deuxième pire performance de l'Air Open. Là aussi, peut-être à l'image de Loïse Boisson, on s'y attendait quand même aussi, Sarah, on n'a pas de grande surprise.
Non, on n'a pas de grande surprise. J'ai envie de dire bravo Elsa Jacquemot, bravo Diane Paris, parce que moi j'ai eu très peur qu'on fasse un zéro pointé. On est à notre niveau. Voilà, je ne peux rien dire de plus. On est à notre niveau. Il n'y avait que trois joueuses qui rentraient avec leur classement dans le tableau de Roland-Garros. Deux qui avaient joué une saison, que sont Diane Paris, Elsa Jacquemot, Loïs, on en a parlé, elle est en retour à la compétition. Toutes les autres, c'est des wildcards. Et le niveau de jeu, on leur donne des wildcards dans le tableau, mais pardon si je vais être dure, mais ces joueuses-là, elles ont tout juste le niveau des qualifs. Elles ont tout juste le niveau des qualifs, et encore. Donc, encore une fois, je me répète, mais il n'y a pas de hasard dans le sport. C'est-à-dire qu'on ne se transforme pas en Wonder Woman ou en Superman parce qu'on joue à Roland-Garros. Et encore une fois, pour un Français, jouer à Roland-Garros, la pression, elle est tellement importante. Tellement importante. Et on va en parler aussi avec les joueurs et notamment avec un Corentin Moutet. Même quant à l'expérience, qu'est-ce que c'est difficile de jouer le tournoi à la maison, tu veux tellement bien faire, le stress est là. Donc je veux dire, quand tu n'as en plus aucune expérience et un niveau de jeu qui n'est pas celui du plus haut niveau, bah, les miracles, ça n'existe pas. Donc oui, on est à notre niveau. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi on est à ce niveau-là?
Après, est-ce qu'une wildcard, par exemple, à Efremova, ça ne lui a pas servi quand on a vu qu'elle a pu engranger de l'expérience, même si elle n'a pas gagné, mais... Alors, Sarah me fait les gros yeux. Est-ce que j'ai un peu de soutien, Eric?
Non, mais elle méritait totalement sa wildcard. Et elle va, je pense que ça va lui faire gagner du temps. Parce qu'elle a vu ce qu'il fallait travailler. Et non, moi, je suis totalement en phase avec la direction technique nationale qui a accordé des wildcards à Xenia et à Moïse Kouamé. Bon, bah, Moïse, choix gagnant. Même si on savait qu'il avait le potentiel, il avait déjà gagné un match à Miami, ce qui n'est pas rien à son âge. Bon, Xenia, elle est encore, faut qu'elle grandisse, faut qu'elle se construise un physique, mais elle a quand même mené, elle a fait 20 bonnes minutes contre Chirchea, qui est une des filles les plus fortes du circuit. Donc moi, je ne suis pas choqué. tu gagnes du temps. Moi, c'est mon avis, tu gagnes du temps et le débriefing, s'il est bien fait avec Manu Planck, ça va lui permettre de repartir de l'avant et de travailler ses points faibles.
Tu gagnes du temps et parfois de l'argent, puisque une wildcard, bah, c'est la petite prime du premier tour.
Évidemment, parce qu'aujourd'hui, les tournois du Grand Chelem, ce sont les tournois qui rémunèrent le plus. Donc oui, c'est aussi ça d'être français, c'est de l'aide fédérale, l'aide de la fédération, elle représente aussi une wildcard. Donc tout à fait. Mais on n'est pas dans les temps de passage des 10 meilleurs mondiales, hein, on ne va pas se mentir non plus. Hein. Andreeva, elle a le même âge que Efremova. Donc, et à 17 ans, Alizé Cornet, elle était déjà dans le tableau final de Roland-Garros. Et moi, à 17 ans, j'étais 150e mondiale et je n'ai pas fini top 10. Donc voilà, il faut remettre tout ça dans le contexte. Aujourd'hui, on a peu de réservoirs, on a peu de relèves. Et moi, ce que j'ai vu ces trois derniers jours, c'est le niveau de jeu. C'est un niveau de jeu où je trouve qu'on ne fait pas le poids, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas des joueuses qui ont des grands coups, qui ont des grands physiques. Oui, on a de très bonnes joueuses de tennis. Mais aujourd'hui, il en faut beaucoup plus. Donc la question se pose, c'est que fait-on pour avoir des meilleures joueuses de tennis qui ont un sens du jeu, qui ont un physique, qui frappent la balle, qui ont du poids dans la balle? Tout ça, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Donc y a une vraie question qui se pose, c'est quel est le rôle de la fédération et comment on forme nos jeunes joueuses pour aller au plus haut niveau, même si à un moment, à 17, 18 ans ou 19 ans, tu ne décides plus rien pour le joueur ou la joueuse. Mais avant, c'est la fédération qui forme techniquement les joueurs et les joueuses. Donc voilà, je m'interroge, mais je pense qu'on fera encore probablement un autre podcast sur le tennis féminin, parce que même si on en a deux au deuxième tour, il y en a une, la marche risque d'être un peu haute, hein, puisque Elsa Jacquemot, elle va jouer Sabalenka. Donc bon, là, on va voir, ça va lui servir. Oui, ça effectivement, ça va lui servir. On va pouvoir le voir, le gap.
Et Diane Paré jouera Anne-Li.
Ouais. Non, mais Sarah a raison, il y a aussi peut-être un problème de détection. Et comment on fait pour attirer les jeunes filles vers le tennis, c'est une vraie question. Est-ce que le boulot est bien fait? Est-ce qu'il ne faut pas plus d'entraîneurs féminines? C'est ça aussi, il faut plancher là-dessus. Bon, c'est un vaste débat, mais effectivement, on ne va pas y consacrer le podcast de ce soir. Mais c'est vrai qu'il faut... Enfin, le signal d'alarme, il a déjà été tiré, mais j'ai l'impression que le train, il avance toujours et il n'y a plus personne qui est dedans. Il n'y a plus de chauffeur, quoi.
Bon, chez les garçons, on est à un ton de conversion un peu meilleur, parce que 2 sur 9, ça fait un peu moins d'un sur 3, de 30%. 7 sur 21, 33% de taux de conversion, 21 Français engagés. J'ai retiré Arthur Fils, hein. J'ai pris vraiment sur les grands tableaux. 7 sont passés, il y en aura forcément un au troisième tour, puisque ce mercredi, Quentin Alice et Hugo Humbert s'affrontent. Kouamé, Van Aché, Rinderknecht, Gaston et Royer, Valentin Royer, qui jouera Novak Djokovic. Bon, 7 sur 21, est-ce que là aussi, pour vous, on est plutôt dans des temps de passage, même si on avait beaucoup de gens à l'arrivée, beaucoup de Français au départ?
Franchement, tu sais très bien que moi, mais les stats qui me turlupine, c'est que ça fait 15 grands chelems qu'on n'est pas capable de placer un mec en quart. Donc ça, c'est très embêtant. Donc moi, je ne juge que sur un quart de finale. Si je n'ai pas de quart de finaliste, je suis malheureux. Donc là, c'est bien, tu nous sors tes stats à la noix, mais tu sais très bien que... En deuxième semaine, il n'y aura personne. Voilà, je le dis franchement.
Et donc, tu vas déjà prendre tes vacances?
Bah non, parce qu'on aura d'autres choses à suivre. Mais oui, c'est décevant. Alors, on en a peut-être perdu deux en route. Corentin Moutet aurait peut-être dû gagner. Terence Santman aussi. Enfin, voilà, c'est des joueurs qui avaient la victoire au bout de la raquette quand même. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec le constat d'Eric. Un pays comme la France ne peut pas se contenter d'avoir des joueurs qui font un troisième tour. On est un pays de tennis. On a un des quatre plus grands tournois au monde. On doit et on se doit d'avoir des joueurs en deuxième semaine de Grand Chelem. L'histoire du tennis a montré qu'on en a eu pendant des années et des années. Donc c'est la même chose. Alors c'est moins visible que dans le tennis féminin, parce qu'il y a une plus grande masse de joueurs. Mais c'est vrai qu'on attend légitimement des deuxièmes semaines. Alors après, ce qui est vraiment très énervant, c'est quand on voit le quart de tableau de Sinner, où était donc Arthur fils. C'est non. Ça. Non, il n'était pas là, Arthur. Il y a un quart qui est vraiment extrêmement faible. Et quand on voit le tableau qu'aurait pu avoir Arthur fils, quand même, on se dit que ça fait mal au cœur.
On ne va pas remuer le couteau dans la plaie, parce qu'Eric n'a toujours pas...
Il y avait Wawrinka au premier tour. Après, il y avait qui? Vous allez m'aider, là. Vous avez le tableau sous les yeux.
Après, il aurait dû jouer China. Ouais. Il y avait Kachanov au troisième et Zverev en huitième. Ouais. C'était le plan. Ouais. C'est le plan de...
Donc c'était lui.
Mais parfois la vie est injuste et voilà, Arthur fils est blessé, n'est pas là, et c'est vrai qu'on voit des parties de tableau assez déséquilibrées. Bon, demain, Quentin Lys, en tout cas un mot sur Corentin Moutet, oui, qui s'est confié après sa défaite en 5-7 sur le Simon Mathieu. Il joue avec la main cassée.
Oui, enfin, il a eu une fracture à la main au mois d'octobre dernier. Et franchement, moi, je l'ai découvert dans sa conf de presse. Et surtout, il n'a pas voulu se soigner parce qu'il y avait la carotte de la Coupe Davis. Donc, comme il l'a dit, je paye un peu, mon corps paye les sacrifices parce qu'il n'a pas voulu stopper les machines, parce qu'il voulait absolument porter le maillot bleu à Bologne. Et là, il le constate, sa saison n'est pas extraordinaire. Et il joue pas, il le dit lui-même, hein, il ne joue pas très bien au tennis. Il n'a pas dû en 5-7 contre Kopriva. Et tu as l'impression qu'il paye la note à retardement.
Il nous l'a dit que voilà, et il a continué à jouer blessé, qu'à Vienne, il a gagné des matchs en étant blessé. Bon, c'est. Je lui ai posé un moment la question, est-ce qu'il ne se bat pas un peu contre lui-même? Est-ce qu'on sent que c'est un joueur qui est dans une phase où il peut-être un peu perdu, je ne sais pas ce que tu en penses, Sarah.
Même au niveau de son staff, c'est pas très clair. Et puis on sait que Corentin est un joueur un petit peu torturé. Il est aussi génial qu'il peut être torturé. Donc c'est vrai que ce match-là, il était au-dessus. Il était au-dessus. Il s'est embarqué dans un match. C'est étonnant, mais. Troisième set, il mène 4-1. Comment il peut prendre 5 jeux dans la vue, perdre 6-4, quand à des conditions aussi chaudes comme ça, on sait que les situations de jeu, elles sont très compliquées à gérer. C'est dommage. Je pense qu'il est peut-être à une phase, à un moment de sa carrière où il doit faire des choix. Ils ne sont pas évidents à faire. Mais c'est un match qui était largement à sa portée. Donc oui, il y a une grande déception après ce qu'il nous dit, ce qu'il nous révèle. Bon, voilà, c'est je laisse libre à de ses propos, mais bon, voilà, parfois on, pour essayer d'évacuer la déception, on essaie de se trouver des excuses ou des échappatoires, et surtout à chaud. Donc voilà, je j'analyserai pas ça. Je pense qu'il y a une grande déception de sa part. Et qu'il faut, il faut recadrer des choses pour repartir. Il a un tennis de génie sur terre battue. C'est génial à voir jouer, quoi.
Il s'est renversé les foules, et notamment sur Simon Mathieu. On a quand même des matchs mythiques. On est un peu en retard, mais il faut quand même dire un mot de Clément Tabur face à Sinner, parce qu'on s'attendait, Eric, à une balade de Yannick Sinner. Bon, victoire en 3-7-0, évidemment, mais Clément Tabur nous a régalé. Il a quand même été à la hauteur pour un joueur de son statut, hein, qui n'est pas dans le top 100.
C'est un joueur qui est habitué à jouer des challengers, et là, il était propulsé dans une arène magnifique en night session contre le numéro 1 mondial, un mec qui perd pas un match depuis le mois de mars. Donc, il y avait des craintes, des appréhensions. Je pense qu'il s'est fait peur parce qu'il s'est fait préguer d'entrée. Il a su éviter la bulle et je pense que ça l'a libéré. Et il finit très bien. Il finit très bien avec un temps de jeu à plus de 2 heures. Eh ben, crois-moi, c'est une belle perf. Il a montré de très belles choses. De toute façon, c'est un garçon qui ne cesse de monter, qui est à son best ranking, qui bosse bien, un peu tout seul, avec sa petite équipe. Mais moi, je pense qu'il peut sortir la tête haute de ce match avec, et Sinner. Sinner, on l'a vu aussi, il a pas joué à 100%, mais l'impression qu'il dégage. Et je pense que les spectateurs qui l'ont découvert pour la première fois, ils ont compris. Parce que c'est pas pareil de voir Sinner devant ta télé et de le voir en vrai. Et Sarah même était bluffée par la, la vitesse de balle, la vitesse de rotation de balle de l'Italien, c'est de la mécanique de haute précision.
De là où on était, on voyait, ça claquait.
Oui, il y a une brutalité dans ses frappes, mais il y a une brutalité et en même temps une précision. Donc c'est ça qui est assez exceptionnel chez ce joueur, c'est qu'effectivement il y a cette puissance alors qu'il n'est pas massif. Donc c'est d'arriver à dégager une puissance et une vitesse de jeu. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce bas du corps qui est comme un chat. Il se déplace un peu comme un chat. Et la vitesse de rotation du haut du corps, quand il gifle la balle, cette dissociation au bas, c'est exceptionnel. Et c'est l'effet ressort. Et c'est pour ça que la balle va si vite. Alors après, quand on voit Alcaraz face à Sinner, on a l'impression que c'est du ping-pong. Mais en fait, la différence, quand tu vois une balle d'un autre joueur qui part à une certaine vitesse et que tu vois que la gifle qui repart, c'est là que tu te rends compte, effectivement, de cette vitesse de jeu. Oui, aujourd'hui, quand on a vu les matchs depuis dimanche, c'est difficile de voir qui, sur la longueur, pourrait tenir la cadence de jeu de Yannick Sinner. Franchement, à part, tout dépend que de lui, en fait. Voilà. Ça ne dépend que de lui, cette victoire dimanche.
Et de l'horaire du match.
En tout cas, on sait déjà qu'il ne croisera pas la route de Daniil Medvedev en demi, puisque le Russe a été sorti par un Australien, Walton. Les Australiens, mine de rien, le climat, je pense que ça leur plaît pas mal. Ce sera, il avait un éventuel rendez-vous avec Bublik. Bublik a été sorti par Struff. Et il peut toujours jouer Félix Auger-Aliassime en demi, mais c'était chaud puisque le Canadien s'est imposé 7-6 au 5e set contre Altmaier. Il y a eu du dégât aujourd'hui.
Allez, rendez-vous donc ce mercredi. Quentin Lissugo-Imbert, évidemment, sur le Simon Mathieu. Royer Djokovic, ça sera Zverev Matchak en night session notamment. Et moi, mon petit Primic Fonseca sur le 14. Alors là, moi, j'ai envie de le voir entre ces deux pépites qui joueront le vainqueur de Royer Djoko, d'ailleurs. Merci beaucoup, Eric. Et merci beaucoup, Sarah. Et on se retrouve demain.
On se retrouve à Wimbledon, exactement.
On se retrouve demain à Roland-Garros avant. Allez, ciao. Cours numéro 1, votre podcast disponible sur toutes les plateformes. C'est tous les jours pendant la quinzaine de Roland-Garros.
RMC, cours numéro 1.